Madame, monsieur, Radio Panique a l'honneur et le plaisir de vous inviter, accompagné des personnes de votre choix, au verre de l'amitié offert à l'occasion de l'ouverture de ces nouveaux locaux, ce vendredi 26 juin 1987, de midi à 14h, rue Thomas Vinsotte numéro 29 à 1030 Bruxelles.
Légende panique.
Vinsotte Story. Chapitre 14. New Radio Panique, version 1. Vinsotte Story, 1987-1994.
Panne historique des Vinsotte.
Radio Panique a 4 ans en 1987. Depuis le début, c'est la galère, l'argent manque.
Que l'argent ? Je...
Vinsotte Story, c'est quoi ?
Un rez-de-chaussée d'une maison unifamiliale.
Vinsotte Story, c'est quoi ?
Un coin de rue, le mât porteur de l'antenne est soutenu par 3 haubans, dont l'un fixé à un toit voisin.
Panique acrobatique.
Le propriétaire de la maison voisine, d'origine marocaine, déclare d'emblée qu'il s'est installé dans ce quartier pour échapper aux bandes de voyous qui sillonnent le Bas-Karbek. Il n'est pas heureux car il pense que notre radio va rameuter cette faune. Il consent quand même à ce que nous fixions un des haubans de l'antenne à son toit.
Radio Clash, Radio Turc, Raïsès, Rayon 4, Caisse 12, Razmataz. Les gens de panique.
Les ringards déchaînés.
Par exemple, là, c'est assez fou de constater que dans le milieu hip-hop, puisqu'on a été les tout premiers, je te rappelle à l'époque de la rue Thomas Vinsotte, à faire une émission de hip-hop en freestyle, donc c'était le bordel, c'était hyper dur à gérer, on avait des tags pleins à la radio, des studios bordéliques et tout ça, qu'on se disait, oh là 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 là, c'était tous les voyous de Scarbeck qui venaient. N'empêche, ils ont quasi rien volé, ils ont quasi rien cassé. Et maintenant, 10 ans plus tard, je vois encore des gens de ce milieu-là qui viennent me voir et qui me disent, putain, à l'époque, vous avez fait fort, quoi. Et vous avez été les premiers à faire ça. Un truc qui aujourd'hui se fait sur Fun Radio, à la limite, quoi, tu vois. Mais à l'époque, personne n'osait faire ça, quoi. Et donner la parole à vraiment ce qu'on appelait des voyous, quoi, mais qui avaient envie de s'exprimer, quoi.
C'était encore autant de rue Thomas Vinsotte, à vrai dire. Où c'était incroyable le nombre de gens qui passaient et qui venaient chanter à ce moment-là, quoi.
Je crois que la catastrophe qui a été la plus monumentale, c'était pas sur un programme, sur un de mes programmes, mais c'était un programme où je participais de temps à autre. Et c'était il y a plus ou moins 10 ans, il y avait une émission qui s'appelait Les Ringards Déchaînés sur Radio Panique, et ils avaient invité des rappeurs à faire des freestyles, et on s'était retrouvés genre 55 personnes dans une pièce de 35 mètres carrés, et puis quand tout le monde est parti, on s'est aperçu que le trousseau de clés avait disparu. On a dû monter la garde toute la nuit dans la cave pour attendre les soi-disant voleurs qui allaient arriver. Et puis le lendemain matin, on était honteux de devoir aller acheter des nouvelles serrures.
Suite à une plainte des voisins, je suis convoqué au commissariat de police. On me laisse exposer pendant plus d'une heure une sociologie du hip-hop. Puis l'inspecteur me remercie pour ce cours gratuit.
Panique flic.
3 ans plus tard, le voisin fait réparer sa toiture et un ouvrier sectionne le hauban. Chute de l'antenne, la firme en cause sera condamnée à nous payer 1 735 €.
Les assurances, à l'insu de leur plein gré, seront toujours les meilleurs sponsors de Radio Panique. Panique famélique et maléfique.
Vinsotte Story, c'est quoi ?
Un budget annuel d'environ 10 000 €, sans compter le salaire du permanent, 3e circuit de travail.
Vinsotte Story, c'est quoi ?
Un nouvel émetteur, un Pascal 50, niché dans les WC.
Panique ? Anecdotique.
Vinsotte Story, c'est quoi ?
Une oreille stylisée, en guise de logo et de slogan.
Et ses oreilles géantes se dressaient comme 2 poteaux indicateurs.
Et vous verrez que les oreilles sont aussi des zones érogènes et non des moindres.
Vinsot Story, c'est quoi?
Des milliers de flyers éparpillés dans la ville.
Vinsot Story, c'est quoi?
Des graphes sur les murs de la cuisine.
L'agressivité de cette cuisine fait penser à un code d'étudiant punk en 1979. Vous ne le savez peut-être pas, mais autant de messages négatifs ont une influence désastreuse sur notre psychisme. À une époque charnière comme celle-ci, pourquoi ne tendrions-nous pas vers un peu de simplicité et de clarté? Dada a eu son heure de gloire et Sid Vicious est mort.
Vinsot Story, c'est quoi?
Une régie et un studio dans une pièce de 5 mètres sur 3, sans séparation, les animateurs n'en veulent pas.
Panique anachronique!
On n'occulte pas la seule fenêtre donnant sur la rue, on la double d'un mur de briques transparentes.
Panique symbolique!
L'aménagement du studio est amélioré à diverses reprises, sous la houlette de Hendrik Verhoeken, avec l'aide de Stéphane de Becker et du regretté Philippe Lahaye.
Chapitre 15. Une radio sans technicien.
Vinsot Story, c'est quoi?
Une absence de local spacieux, ce qui fait du studio en soi déjà le pôle d'une radio d'expression et de création, un salon de rencontre et un lieu de réunion.
Avis du permanent aux animateurs, 21 janvier 1992.
Si le studio est un de nos lieux de plaisir, il est avant tout l'instrument de notre possibilité d'émettre. Notre radio ne peut être perçue ni comme une maison, ou un club de jeunes, ni comme un salon de réception, ni comme l'antichambre des copains. Faire de la radio, c'est d'abord communiquer par voie hertzienne. Qu'on n'oublie jamais qu'il y a toujours un grand décalage entre l'ambiance d'un studio, telle que perçue dans son immédiateté vécue, et les perceptions de l'auditeur. La radio est un art, même mineur, et l'animateur qui réussit est celui qui maîtrise le décalage entre l'impression et la communication.
Tu installais des cierges, des encens, tu éteignais les lumières, tu allumais des bougies sans doute, et tu fermais la porte à clé, c'était comme un sanctuaire.
Ben oui, tout à fait, ça je me souviens, mais j'aime bien l'idée de faire un petit rituel comme ça, de reproduire un petit peu dans le studio, là c'est ma propre chambre si on veut, et aussi pour les invités, je trouvais ça sympa de créer une atmosphère, ben, comme on envisageait un peu cette émission sous forme d'une messe noire entre des tas de guillemets évidemment, c'était chouette de créer cette ambiance, et j'aimais bien en effet m'enfermer, parce qu'il y avait quand même déjà un truc que je supportais pas, et ça continue après, d'être interrompu par l'émission suivante. J'ai toujours été suivie par des émissions, comment dire. J'ai toujours entretenu des relations un peu difficiles avec les émissions qui me succédaient et qui avaient quand même la fâcheuse habitude d'entrer de façon assez tonitruante et de gâcher justement la fin de l'émission. Mais bon, enfin, tout ça était quand même assez gentil malgré tout. Mais bon, j'aimais bien quand même pouvoir terminer mon émission dans le recueillement et le calme. C'est pour ça que je fermais la clé.
Mais cette idée de créer une atmosphère dans le studio même, c'est, je trouve ça assez original. Et
Bah oui, parce qu'il n'y a personne qui le voyait. Hein. Peut-être que les auditeurs s'en rendaient compte. Et je me souviens, j'ai un très très bon souvenir de l'époque de cette émission. J'avais invité un groupe, parce que j'ai invité quand même de temps en temps aussi des groupes bruxellois pour la plupart, à venir passer leur cassette, leur démo, voir leur disque. Et il y avait un duo qui s'appelait Jardin d'Usure. D'ailleurs, ces gens viennent toujours à la radio dans d'autres émissions. Et ils étaient venus pour commenter leur CD, quoi. Et il y a un moment, il y a eu une panne de courant. Et alors tout s'est éteint, la musique, évidemment, la table de mixage, les lumières, et ça revenait pas, quoi. Et alors, en fait, on était là tous plongés dans le noir, à se regarder, un grand silence. Et alors, les deux musiciens se sont mis comme ça à frapper sur la table. Il y avait un percussionniste, frappé sur les armoires, en fait, à frapper sur tout ce qui lui tombait sous la main. Et l'autre, le chanteur, s'est mis à vociférer, à psalmodier des trucs et tout ça. Et puis moi et la personne qui était avec moi, on s'est mis aussi à faire des bruits, etc. Et progressivement, alors, la lumière s'est mis à clignoter, à revenir, puis le son est revenu. Mais ça a duré une demi-heure, quoi. C'était très, très chouette. Évidemment, les auditeurs n'en ont pas profité, mais c'était comme ça, une espèce de happening tout à fait spontané, vraiment très, très chouette, quoi.
Vinsot Story ? C'est quoi ?
Un équipement technique rudimentaire, sujet à des pannes récurrentes. Quelques vols et les négligences de certains animateurs compliquent, si besoin était, la bonne marche de la radio.
Vinsot Story, c'est quoi ?
C'est Panique, de 1983 à 1994, une radio sans technicien professionnel.
Les gens de Panique !
Patrick Verdrenk, ingénieur du son.
Est-ce que tu peux me raconter la genèse de Patrick Verdrenk qui fait de la radio ? Ça a commencé quelque part quand j'avais 12-13 ans, non, disons plutôt 14 ans. C'était un intérêt général pour la technique, l'électronique. Ma première contact avec la radio, c'était une première radio, vieille radio à lampe que j'avais démolie, entièrement démontée. J'ai terminé mes études secondaires en électronique. Cependant, j'étais déjà devenu un collectionneur de vieux brôles techniques et notamment collectionneur de radios à lampes. Je voulais étudier quelque chose où on pouvait apprendre à manipuler les machines, pas comment les machines fonctionnent à l'intérieur, mais comment utiliser les machines son, les machines images, comment les utiliser pour créer son image. Alors j'ai commencé mes études supérieures au Ritz. Mmh. Et alors l'âme solitaire commençait à écouter sur sa chambre, à écouter la radio et à exploiter la bande FM. C'est comme ça que je suis tombé sur les premières radios libres. C'est comme ça que j'ai découvert des radios comme les radios anarchistes, les radios alternatives. J'ai découvert le Radio Plus d'antan, qui était aussi une radio progressiste. J'ai écouté Radio Capital, qui était le précurseur de FM Bruxelles. Tout ça, ça m'a fort attiré, la radio de gauche. Quand même, en 80, je me suis engagé chez Radio Scorpio, comme bête technicien qui faisait de la technique pour les programmes, pendant les émissions. Et c'était en 81 déjà que j'ai pris contact avec FM Bruxelles. Alors là, chez FM Bruxelles, oh, j'étais bête technicien, là, rien de spécial. Je suis resté chez FM Bruxelles jusqu'à la faillite en 87-88.
Et ton premier contact avec Radio Panique, ça a été quoi?
Alors, j'avais déménagé vers Bruxelles début 88. Et en ce moment-là, j'écoutais encore les radios alternatives, mais les radios alternatives en général. Et ici à Bruxelles, en me baladant sur la bande FM, je suis tombé sur Radio Panique. C'est une radio qui m'a plu aussi. Je me rappelle que un jour, je me disais, merde, cette radio, c'est bien intéressante, mais techniquement, c'est nul. Moi, je pourrais les aider. Moi, j'ai la connaissance pour les aider, mais c'est difficile, puisque j'ai un boulot irrégulier, donc je ne peux pas faire... je ne peux pas m'engager pour être là tous les jours, d'une telle heure à une telle heure. J'étais au boulot et je dis, voilà, aujourd'hui, maintenant, je vais les téléphoner. Et donc, je les ai téléphonés, je disais, voilà, je suis technicien professionnel, je suis ingénieur de son professionnel, je pourrais vous aider. Voilà, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Et alors, je crois que j'avais eu quelqu'un à la ligne, un néerlandophone quand même, qui ne me comprenait pas complètement. Ou était-ce l'inverse? Était-ce les dames? Bon, j'ai eu quelqu'un à la ligne qui ne me comprenait pas. Peut-être que c'était parce que mon français était si mauvais. Et alors, il m'a passé à un néerlandophone. Ou bien, c'était justement le contraire. C'était Henrik, le néerlandophone, qui ne me comprenait pas. Et qui m'a passé à Marcel, le francophone. Je ne sais plus. Mais c'était un problème pour me faire clair. Pour me faire comprendre.
Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Panique? Pourquoi pas Air Libre? Pourquoi pas une autre?
C'est l'impression générale que cette radio a fait sur moi. C'est une radio de gauche, mais pas trop extrémiste, ce que je n'aime pas chez une autre radio ici à Bruxelles. C'est pas une radio mainstream, c'est une radio telle qu'elle est, quoi. Et de gauche, mais pas trop de gauche, pas ceci, pas cela, un peu plus cela, et c'est ça. Ouais. Donc c'est l'image générale de la radio qui a fait que je me sentais attiré. Le tout premier fois que je suis arrêté chez Radio Panique, dans le studio de Radio Panique, J'étais tellement déçu par l'état affreux de ces studios, qui était un rassemblement de matériel domestique et beaucoup de bricolage amateuristique. Et moi, en tant que technicien, ingénieur de son professionnel et électronicien, je trouvais ça tellement désespéré que je disais d'emblée, que je disais dès le départ, ici je veux, à cette installation, ici je ne touche pas, c'est trop décevant, il y a rien qu'on peut faire de ça. Et alors, j'ai un peu changé d'idée avec l'arrivée fin 90. Non, j'ai un peu changé d'idée avec l'arrivée au début de l'année 94, l'arrivée d'une grande table de mixage qui a été achetée en seconde main par Christian Luzacquino et prêtée à la radio. En ce moment-là, je me disais, bon, le studio en général, c'est pas ça, mais avec cette grande table de mixage, un Power 1300 pour ceux qui la connaissent, avec cette grande table de mixage, il y a plus de possibilités pour construire une radio qui fonctionne avec une technique valable. Et alors, petit à petit, j'ai commencé à bricoler. À bricoler pour Panique dans le studio de Panique.
Et que personne ne l'oublie.
Que l'art mange.